C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous par cette matinée, ma foi quand même ensoleillée, avec un ciel un peu moutonneux, mais bon, c'est de saison et il fait quand même très doux. Bien, alors nous approchons bien sûr de la fin de l'année. Et c'est le temps bien des calendriers, des almanachs, des carnets, etc. Et donc le grand almanach du Périgord 2023, bien sûr, apparu. Il est d'une taille peut-être un peu inférieure au précédent. Il est édité par la Geste et dessus, il y a du sudoku, les mots fléchés, histoire drôle, proverbes, histoire et patrimoine. Donc le grand almanach du Périgord 2023. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées dans cette affaire. Il y a tout d'abord Jacques Dubourg. Alors Jacques Dubourg, il vit à Sainte-Bazeille, dans le Lot-et-Garonne, c'est un voisin. C'est un ancien officier de l'armée de terre. Il s'est depuis plus de 30 ans spécialisé dans l'histoire régionale. Alors émerveillé par les richesses architecturales et humaines du sud-ouest de la France, il a dans un premier temps mené des études approfondies sur les bastides, les villes neuves du Moyen-Âge, et écrit plusieurs ouvrages les concernant. Puis il a traité de nombreux autres sujets, tels que les guerres de religion, les Templiers, les abbayes, les énigmes de l'architecture, les révoltes ou encore les gavaches. Alors, il est auteur quand même d'une quarantaine de livres, et il est membre de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Alors donc, on s'est servi, alors une partie bien sûr des contenus de cet almanach provient de cet ouvrage. Alors cet ouvrage, c'est le Périgord mystérieux donc de Jacques Dubourg qui est dans la série Contes et légendes. Alors voilà ce que nous dit ce livre. Le Périgord est une vieille terre de légendes, tout en énoisant ou en dépouillant le maïs à la veillée, racontait de merveilleuses histoires et légendes. Les participants étaient bas d'admiration devant les fées qui fréquentaient les rives de la Dordogne et de la Vézère. Ils rêvaient en entendant parler de Charlemagne ou de Saint-Louis qui étaient passés dans la région. Compatissait au malheur de l'épouse emprisonnée par son mari et tant d'autres histoires, tous ces récits existent encore dans des archives, des revues ou des livres de voyage. Il nous a paru intéressant de les rassembler dans un ouvrage car ils font partie du patrimoine humain du Périgord. Et donc c'est extrait du Périgord mystérieux de Jacques Dubourg. Alors, bien sûr, comme tout almanach, il y a des dictons. Alors, le jour de l'an, mois d'août, très chaud. Ensuite, si gèle à la Saint-Raymond, l'hiver sera encore long. Alors, le second personnage qui est impliqué dans cette affaire, c'est Patrick François. Alors, j'allais dire notre ami Patrick François. Alors, ce qu'il nous dit, il est tombé dans la marmite de la rigolade tout petit. Je me suis nourri des pensées de mes maîtres, que sont Alphonse Allais, Pierre Dac, Francis Blanche, Frédéric Dat, Pierre Desproges, Coluche, Raymond Devos et les amoureux des mots comme Brassens, Sapointe ou Nougaro. Puisqu'il est bien connu que le juste emploi des bons mots rend des cris vains. Voilà, bon jeu de mots. Bien entendu, je suis un grand adepte du jeu de mollets. Et j'ai toujours été dans ma vie professionnelle ou privée, à l'école ou dans mes activités associatives et même au conseil municipal de comique de la bande du Le poil à gratter, le fou du roi. Puis j'ai découvert le contre-pied et je me suis bien marré. Champion départemental, poussin du ping-pong buccal. Alors je reviens voir un match. Je suis également spécialiste du découilleur à manette et un grand défenseur du strombique à poilure. Signe particulier, je ne porte plus la cravate depuis que Pierre Dac a dit que cet accessoire servait uniquement à indiquer la direction du cerveau de l'homme. Alors, ce qui a été repris de Patrick François dans cet almanach, c'est l'apéro-jeu du Périgord, 46 cartes pour jouer, 200 blagues et questions. Alors bien sûr, alors le dicton du jour, janvier sec et sage est un bon présage, il vaut mieux voir un voleur dans son grenier qu'un laboureur en chemise en janvier. Alors bien sûr, il y a encore une autre personne qui est impliqué donc dans cet ouvrage, et donc une partie des contenus de cet almanach provient de cet ouvrage. Alors cet ouvrage, c'est mon premier livre d'histoire d'antan. Et la personne qui nous le présente, eh bien, c'est Laurent Morin. Alors Laurent Morin, peut-être moins connu, graphiste et artiste plasticien, dessine depuis 25 ans les décors et les univers du jeu télévisé Fort Boyard. Alors, c'est Fort Boyard, je pense que tout le monde connaît. On peut donc qu'il connaît bien cette construction. Voilà ce qu'il nous dit. Apprendre l'histoire de France en images, comme autrefois, comme s'agissait de notre premier livre d'école, pour découvrir comment, pas à pas, année après année, l'histoire s'est imposée comme une matière largement enseignée dans les écoles de la République jusqu'à devenir un environnement scolaire familier. Cet ouvrage rend également hommage aux grands artistes méconnus, voire inconnus, auteurs d'œuvres magnifiques ou charmantes qui ont illustré ces textes, car si le projet de ces dessins fait parfois sourire, la qualité de l'exécution peut être éblouissante. Alors bien sûr, il y a le dicton du jour, pluie de février remplit le grenier. Février, mars, trop chaud, mettent le printemps au tombeau. Voilà alors donc une partie des contenus, comme je l'ai dit, de cet ouvrage, de cet almanach, pardon, provient de cet ouvrage. Et puis il y a une autre personne qui est impliquée également, c'est Marie Jolin. Alors, Marie Jolin est originaire de Vendée, elle a obtenu le diplôme d'état de docteur en pharmacie à la faculté de Nantes. Sa famille, très attentive à la végétation, lui a permis de s'éveiller aux plantes, portant de plus en plus d'intérêt à la flore. Elle a décidé d'approfondir ses connaissances dans ce domaine en choisissant un module sur les plantes régionales, alors animé par des professeurs et par des passionnés de botanique et de phytothérapie. Aujourd'hui, elle exerce sa profession de pharmacienne en officine, sa patientèle de plus en plus à la recherche de médecine douce lui permet de mettre à profit son savoir sur les vertus médicinales des plantes. Mariée et mère de deux enfants, elle utilise aussi certains remèdes traditionnels au sein de sa famille. Voilà, jamais si bien servi que par soi-même. Alors voici ce qu'elle nous dit, voici remis au goût du jour les nombreux remèdes utilisés par nos aïeux pour soigner les affections les plus courantes des voies respiratoires, des yeux, de l'appareil digestif, mais aussi du système nerveux, cutané, urogénital, cardiovasculaire ou encore des cas de grippe, fièvre, mal des transports, pour soins durant la grossesse, allaitement chez les nourrissons. Tous les remèdes répertoriés sont à la base de substances naturelles, telles que les matières végétales ou minérales. Alors, son ouvrage, dont une partie des contenus provient donc de... provient de cet ouvrage, les remèdes traditionnels, donc Marie Jolin. Voilà, alors, le dicton du jour, taille tôt, taille tard, mais rien ne vaut la taille de Mars. Et puis, Saint-Joseph va et vient l'hirondelle. Voilà, donc on va feuilleter un peu, bien sûr, cet ouvrage. Alors, cet ouvrage, le fil conducteur, ben, c'est l'histoire de France. Et bien sûr... Le Périgord, bien entendu, mais c'est l'histoire de France, de la préhistoire jusqu'à la Troisième République, c'est-à-dire après la guerre de 1870. Alors, pour commencer, bon, mais il y a l'église Saint-Rémy. Alors, l'église Saint-Rémy, elle est près d'Auriac, en Périgord, une chapelle datant du XVe siècle dédiée à Saint-Rémy. Elle abrite une statue de ce pèlerin qui est entamé de nombreux coups de couteau. Autrefois, en effet, des fidèles venaient ici pour emporter une parcelle de la statue et s'en frotter le corps, et était ainsi guéri de maladies. De nombreuses processions étaient organisées autrefois entre Auriac et la chapelle. Les participants s'approchaient de la statue guérisseuse et donnaient un sou après avoir écouté l'évangile de Saint Matthieu sur les guérisons. Voilà alors, Saint-Rémy, qu'on appelait aussi, je crois, Saint-Rémédie, c'est-à-dire le Saint des Remèdes. Alors, la chapelle est sur le bord de la route, entre Montignac et Thonon. Voilà. Alors, ensuite, il y a bien sûr un personnage incontournable du Périgord, même s'il n'est pas originaire de ce pays, c'est Cyrano de Bergerac. Alors, le héros de la célèbre pièce de théâtre éponyme d'Edmond Rostand a longtemps été considéré comme un personnage du Périgord. Il se disait qu'il était originaire de Bergerac et qu'il s'était, comme les cadets de son rang, engagé dans la fameuse compagnie du régiment des gardes de M. de Carbon de Casteljaloux. Tout ceci a même été accrédité par des auteurs connus tels que Théophile Gautier ou Émile Magne. Ce dernier ira d'ailleurs, il n'aura pas hésité à écrire « Né dans l'ancienne ville de Bergerac », cité libérale et généreuse qui chassa deux fois les Anglais durant la guerre de Cent Ans et donna le jour à trois maréchaux de France. Cyrano fut de cette France guerrière et littéraire tout ensemble. Par ailleurs, la ville de Bergerac, très fière de ce personnage qui porte son nom, lui a élevé deux statues crétonnes qui trônent sur des places de la cité. Voilà, alors bien sûr, on va prendre bien sûr le dicton du jour. Quand on a un sou dans sa poche, le 1er avril, on en a toute l'année. Alors donc, le 1er avril, vérifiez quand même avoir un peu d'argent dans vos poches. Le 7 avril, après le coucou, c'est le rossignol qui chante. Alors on va continuer sur le Périgord. Sur le Périgord, bien sûr, alors on va aller à Périgueux, on va changer un peu de secteur. On va aller à Périgueux et on va regarder de près la Tour de Vézone. La Tour de Vézone est un des seuls vestiges de l'ancienne cité gallo-romaine. Ce monument emblématique de Périgueux est haut de 24 mètres, un diamètre extérieur de 20 mètres et des murs de plus de 3 mètres. Bien conservé, et comporte toutefois sur son côté et une brèche de 9 mètres de large, peu régulière, mais verticale dans son ensemble et qui ouvre la tour dans toute sa hauteur vers le levant. D'après une légende, cette brèche aurait été créée par Saint-Front, l'apôtre de Périgueux, au moyen d'un coup de bâton. Et puis, il y a d'autres choses aussi, la source de l'empereur. Alors, j'ai découvert, au 9e siècle, Charlemagne campait dans la plaine, non loin de la ville, donc de Périgueux, mais les ennemis l'avaient précédé dans la région et avaient empoisonné l'eau de la rivière. Le soldat mourait de soif, alors un miracle se produisit, tandis que l'empereur s'appuyait sur le pommeau de son épée, une source jaillit tout d'un coup, elle coula doucement au début, puis son débit augmenta et un véritable groupe se forma dans les rochers. Il paraît qu'on n'en connaît pas la profondeur et que depuis la source fournit l'eau à la ville de Périgueux. Voilà, alors, donc voilà pour Périgueux, et puis il y a le dicton du jour. Lune d'avril, nouvelle, ne passe pas sans gel. Ouais, c'est vrai que tant qu'on est au mois de mai, alors fleur d'avril ne tient qu'à un fil. Voilà, alors on va continuer à feuilleter un peu cet almanach du Périgord 2023. Alors on va revenir un peu sur les bords de la Dordogne, à le château de Montfort. Alors le château de Montfort, belle forteresse, située au-dessus de la Dordogne, a été le théâtre de nombreux combats. Durant la croisade contre les Abilgeois, d'étranges récits de cette période ont été faits. Des historiens rapportent en particulier que le seigneur des lieux, Bernard de Casnac, coupait les mains et les pieds des hommes qu'il capturait et leur crevait les yeux. Pauvre Jean. De son côté, son épouse, Alix de Turenne, tout aussi cruelle, coupait des seins et les pouces des femmes. La légende s'est aussi emparée de cette période. D'après elle, Simon de Montfort, chef de la croisade, aurait fait brûler Blanche, la fille de Bernard et d'Alix. Depuis ce jour-là, un fantôme enterrait ces lieux sous la forme d'une flamme. Voilà, alors, bien sûr. Il y a des revenants un peu partout. Alors, et puis il y a un dolmen, la pierre du Dable, qui existe vraiment. Moi, j'y habitais pas très loin. Alors, à Vitrac, on peut voir un dolmen légendaire dénommé Peyrelevade, mais que l'on appelle aussi la pierre du Diable. Son nom lui vient d'une ancienne légende régionale. Un jour, le Diable transporter cette énorme pierre pour l'amener à Sarlat, et sans doute pour construire un monument public, mais il la trouva trop lourde et la posa là. Il paraît que l'on peut la voir. Dessus, il y aurait des traces qu'il y a laissées. Alors, je ne sais pas si c'est exact. Alors, on va continuer rapidement avec la Vénus de Tursac. Alors là, on est plutôt sur les bords de la Vézère. En 1959, une statue a été mise au jour à Tursac, dans un site préhistorique nommé Abri du Facteur. Son intérêt est grand puisque les spécialistes l'ont daté de la période gravétienne, c'est-à-dire entre 25 et 21 000 ans. Avant notre ère, bien entendu, il s'agirait donc d'une des premières Vénus au même titre que celle de Brassampouy dans les Landes ou de Grimaldi en Italie. Et de taille réduite, 81 cm, a été sculptée dans de la calcite translucide de couleur ambrée. Ses reins sont cambrés, ses fesses saillantes, elle a un abdomen rebondi qui intrigue bien des préhistoriens. Nombre d'entre eux ont émis l'idée qu'elle était peut-être en présence d'une femme préhistorique dont l'état de grossesse était avancé. Tursac se trouve actuellement à Paris, au Musée des Antiquités Nationales. Voilà, alors j'en ai terminé rapidement le dicton du jour. Chaque goutte d'avril en vaut mille. Quand avril est froid, pluvieux, les moissons s'en vont que mieux. Bien, alors donc c'était extrait du Grand Almanach du Périgord 2023. Voilà, eh bien, moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, peut-être pour feuilleter à nouveau ce Grand Almanach du Périgord. Voilà, au revoir et bonne semaine.